Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute.
Bonjour Arnaud et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont la Russie pense, développe et utilise les technologies d'intelligence artificielle. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, expliquer ton parcours et ce qui t'a amené à t'intéresser au développement de l'IA en Russie ?
Bonjour Clément, tout d'abord merci beaucoup de me recevoir. Donc je m'appelle Arnaud, je travaille aujourd'hui en intelligence artificielle dans une start-up qui a été fondée l'année dernière, comme directeur des affaires publiques, ce qui touche la stratégie mais aussi la communication, la représentation générale de l'entreprise. Mais auparavant j'ai une fonction assez particulière au sein du ministère des Armées, où j'ai été, d'ailleurs je suis toujours en tant que réserviste, dans un rôle qui s'appelle conseiller politique. Conseiller politique, c'est un spécialiste S relations internationales d'une certaine zone, et dont le but est de conseiller un état-major ou le commandement d'une opération militaire sur les problématiques politiques d'une opération, sur la complexité stratégique, le rapport avec les alliés, mais aussi avec le compétiteur stratégique. Et moi, en ce sens-là, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années maintenant que je suis spécialisé sur la Russie, que ce soit dans le cadre de mes études, où j'ai directement d'ailleurs étudié là-bas. J'ai beaucoup donc développé mon intérêt pour la stratégie russe, les stratégies russes, qu'elles soient militaires, diplomatiques, elles s'imbriquent d'ailleurs beaucoup. Et à ce titre-là, depuis quelques années, je suis évidemment ce qui se passe dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il y a des déclarations qui sont évidemment très connues, on pourra en parler, qui ont beaucoup fait le buzz en Occident ailleurs sur les déclarations du président russe, mais au-delà de son application industrielle et économique dans le champ militaire. Et voilà pourquoi tous ces domaines font que je m'intéresse assez particulièrement à l'IA en Russie. Je ne suis pas chercheur, mais on va dire très intéressé. C'était le fruit de mon travail aussi de pouvoir en parler, d'expliquer cela à des militaires, dans un complexe un peu plus macroéconomique global que purement la vision militaire, même si évidemment, dans le cadre de mes fonctions actuelles, ça reste un intérêt particulier pour nous.
Tu l'évoquais rapidement, mais en effet, en 2017, donc Vladimir Poutine disait dans un discours que celui qui dominerait l'IA dominerait le monde. Comment, de ton point de vue et comment toi, à travers le regard que tu portes, comment la Russie envisage son développement de l'IA par rapport à d'autres acteurs comme les États-Unis ou la Chine? Et est-ce qu'il existe une vision spécifique de l'IA russe comme vecteur de puissance?
Alors cette déclaration effectivement fait couler beaucoup d'encre, hein. Elle date d'ailleurs, finalement elle est plutôt tardive, j'ai envie de dire, qu'on parle à d'autres travaux d'autres puissances dont tu parles. La déclaration a lieu en fait à la rentrée scolaire 2017, elle a été reprise plusieurs fois par un président russe, genre avec un effet de, dès que le président russe parle, particulièrement en Occident, il y a beaucoup de réseaux qui le reprennent. Mais la stratégie d'IA russe est un peu plus tardive. Elle date de 2019, quasiment 2 ans plus tard. Donc, il y a plusieurs stratégies russes et plusieurs plans. Et on va dire qu'il y a 4 grandes stratégies nationales d'IA russe. Celle qui est vraiment la roadmap, on va dire, date vraiment 2 ans plus tard, septembre 2019, et une version plus longue en octobre 2019. Si on compare à la France, par exemple, les premiers travaux stratégiques publiés par l'État français datent de la fin 2016. Et les travaux, par exemple, de la commission Villani, hein, qui datent de mars 2017. Les États-Unis ont des travaux publics bien plus anciens que ça, avec des articles scientifiques qui, évidemment, ont été aussi très repris par le gouvernement fédéral américain. Les Chinois, c'est toujours un peu plus particulier, parce qu'on sait qu'il y a une stratégie, il y a des grands moyens qui sont derrière, mais c'est plus difficile de savoir en document public. Donc, est-ce qu'il y a une spécificité russe de l'effort en IA? Elle reprend déjà beaucoup de constats. Elle reprend beaucoup de constats d'autres puissances. L'implication économique de l'IA va être décisive. Que ce développement va s'accélérer. En fait, les deux grandes révolutions qui ont dans l'IA ces dernières années sont pas trop des révolutions conceptuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on sait sur les grands modèles de langage ou autres ont été théorisés pour la plupart dans les années 80, y compris parfois leurs limites mathématiques. Ce qui a changé vraiment depuis les années 2010, c'est deux choses. C'est l'accès à la donnée. La donnée est devenue immensément riche. Aujourd'hui, on a un vrai problème de savoir ce qu'on fait de toutes ces données. Une heure de vol aujourd'hui d'un avion de chasse, c'est plusieurs téraoctets à chaque fois de données à analyser. Et si on parle du domaine public, on parle quand même d'une utilisation d'Internet dans les puissances développées gigantesques par la population. Si on regarde ne serait-ce que Meta doit avoir plus de 2 milliards de clients et peut-être potentiellement chaque jour des centaines de millions actifs. Donc il y a cette question d'accès à la donnée qui est devenue plutôt simplifiée, de production de données qui était énorme, et de l'autre côté, la puissance de calcul. C'est ça la vraie révolution industrielle dedans. Où est-ce qu'on est capable aujourd'hui de calculer et de faire en termes de puissance des GPU, des unités centrales capables de faire des calculs, on est un facteur parfois 15, 20, voire beaucoup plus, sur des unités qui sont moins chères. Il y a une vraie explosion technologique dans le domaine, c'est clair, les microprocesseurs, les fameuses puces, les nanopuces et autres, qui permettent finalement à beaucoup plus de pays et d'acteurs de travailler sur des modèles d'IA, de faire de la recherche, voire d'avoir de l'IA embarqué parce que les processeurs sont plus petits, le hardware se réduit. Donc c'était ça, cette véritable révolution industrielle que nous sommes en train de vivre. Et la Russie en a pris conscience. Donc la spécificité, je dirais qu'elle se pose comme beaucoup de choses d'ailleurs dans le positionnement de la Russie, c'est un positionnement par rapport à d'autres. Je ne vais pas le dire, nous, nous voulons faire ça, c'est les autres font ça et on va essayer d'être différents. Il y a un domaine d'ailleurs qui est assez, j'allais dire rigolo, c'est peut-être pas le terme, mais c'est le positionnement par rapport à l'éthique. On le voit d'ailleurs dans beaucoup de documents russes, de déclarations, qui est une question du rôle de l'humain dans l'IA, qui s'oppose assez frontalement à certaines déclarations d'entrepreneurs de la Silicon Valley sur le transhumanisme, qui jouent en fait du fait du discours de Moscou, dans le fait que c'est une civilisation différente, etc. Ça, c'est un petit peu anecdotique, on va dire, mais c'est une petite différence, on va dire, de discours, de tentative de puissance normative. Mais la stratégie russe aussi, elle est différente parce qu'elle voit directement la compétition. Si on compare, par exemple, au US Chip Act ou ce qui s'est passé en Europe récemment sur les investissements, il y a une idée de compétition stratégique, de course technologique. Là, on parle vraiment de rivalité de puissance de la stratégie russe. On parle vraiment de fait, c'est bien les propos de Vladimir Poutine, le maître du monde. On ne parle pas de rester dans les grandes puissances, on ne parle pas d'être performant, on parle de maître du monde. Donc, il y a aussi cette conception très russe que les relations internationales, de manière générale, sont un jeu à somme nulle, que quand quelqu'un gagne quelque chose, quelqu'un le perd. Parce qu'ils ont une vision très différente des pays européens entre eux, hein, qui ont été un peu dans cette logique de coopération depuis 1945 et tout ce qu'on a vécu. La Russie voit largement sa perception dans l'espace géopolitique comme une lutte de puissance. Où ce qui n'est pas à l'autre doit être conquis. Et on le voit avec ce qui se passe en Ukraine, on en parlera sans doute, mais dans plein d'autres domaines. Et il y a aussi une réalisation par les élites russes du retard de la Russie dans certains domaines, notamment dans le domaine, ce qui est décrit en 2019, dans les grandes priorités. La première, c'est vraiment renforcer la souveraineté technologique. Pour garantir l'indépendance technologique de la Russie face aux pressions géopolitiques, hein, c'est déjà marqué en 2019, donc on voit déjà ce positionnement quasiment frontal et de décrochage, on va dire, de décrochage par rapport à l'Occident. Une parenthèse là-dessus, hein, mais c'est pas vraiment nous, occidentaux, qui poussons la Russie dans les bras d'autres facteurs géopolitiques aussi traditionnels, mais c'est bien un positionnement russe, des élites notamment, de se dire il faut être le plus dépendant possible d'eux, et accroître d'ailleurs leur dépendance pour avoir des vrais choix géopolitiques. Ça oui, une vraie vision de compétition. On le voit dans cette doctrine, quand on transpare un peu derrière la ligne, mais aussi une logique de modernisation économique. Il faut savoir que l'économie russe est quand même basée sur beaucoup pour sa production, sur l'extraction de ressources premières et sa vente. Elle a d'autres capacités industrielles intéressantes, notamment évidemment dans le domaine aéronautique et spatial, où elle hérite du complexe soviétique des capacités assez uniques dans le monde. Mais néanmoins, il y a quand même une grande partie du PIB russe et de l'argent fédéral russe qui part dans l'exportation de gaz et de pétrole. Or, l'IA aujourd'hui peut avoir des effets multiplicateurs dans d'autres, de rattrapage, permettre d'être plus efficace. Je prends un exemple, l'un des grands acteurs, on en parlera peut-être plus tard, de la modernisation et de l'implantation de l'IA dans l'économie russe, ce sont les acteurs bancaires. Mais c'était d'ailleurs le cas en Europe et aux États-Unis. C'est beaucoup moins visible que ChatGPT, par exemple, mais en fait, les vrais premiers acteurs qui ont utilisé des algorithmes extrêmement rapides et implantés économiquement, ça a été les acteurs de la fintech. À Londres, par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, on voit par exemple ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps sur la chute du yen pendant l'été, c'était en grande partie une des conséquences de l'automatisation des réactions des marchés par rapport à certains mouvements monétaires et à l'absence de contrôle humain pendant les vacances. Voilà, ça, on l'oublie, mais l'économie russe, en grande partie, qui s'est beaucoup, on va dire, concentrée sur Moscou, sur son pôle bancaire, sur son pôle financier, et des grands champions du domaine comme Sberbank, a été absolument moteur là-dedans. Donc il y a une question de modernisation économique et aussi de dire de multiplier certains effets. Faut pas oublier que la Russie est un très grand pays, avec des problèmes d'infrastructure gigantesques. Mais ça, c'est un problème très clair, hein. Pas directement question de ça dans la doctrine, mais encore une fois, on peut le voir. C'est la meilleure utilisation des moyens. Il y a une déperdition, par exemple, sur le système énergétique russe qui est gigantesque. Il y a des chiffres qui disent qu'ils perdent entre 25 et 50% de ce qui est extrait dans certaines canalisations de gaz, des gigantesques oléoducs. Comment faire en sorte pour détecter les fuites, ce soit plus efficace, de prévoir la demande, gérer les flux. Et plein d'autres choses, hein, même sur le domaine médical qui, pour le coup, est beaucoup de questions. Comment faire en sorte d'optimiser les dépenses médicales de l'État dans un État qui, encore une fois, doit couvrir un territoire qui fait 17 millions de kilomètres carrés. Il y a aussi cette question de modernisation économique qui n'est pas vraiment la même chose qu'en Occident. On ne parle pas de modernisation, mais de garder en tête les nouvelles technologies. Alors, aussi, une question de rattrapage. Ils le disent. Par rapport à d'autres pays, il faut rattraper ça et qu'on soit plus performant dans notre domaine. Il faut améliorer l'efficacité de l'État fédéral, des grandes entreprises. Et deux choses aussi qui sont importantes dans la doctrine 2019. Je reviendrai sur la plus importante en dernier pour pour en parler, mais il y a aussi une question de développement socio-économique. Ça joue du même domaine. L'accès des citoyens à Internet, l'accès aux services fédéraux, l'accès aux services de paiement et autres. La Russie est un pays qui, à l'égard d'autres pays comme la Roumanie, par exemple, l'Estonie, qui ont été assez loin des grandes évolutions technologiques des années 80 et 90, ont un rattrapage technologique assez énorme dans certains domaines, voire une avance. Par exemple, en Roumanie, ils n'ont quasiment pas eu la DSL, ils sont passés à la fibre directement. Ils ont été en avance en France. Moi, je me rappelle quand j'étudiais en Russie entre 2012 et 2013, j'avais une clé 4G directement sur mon ordinateur pour avoir Internet quasiment au bout du pays. Alors, pas partout, mais quand même à peu près partout près des voies ferrées. La 4G n'existait même pas en France à l'époque. Donc, il y a aussi cette question que la technologie, les technologies de pointe de l'IT peuvent améliorer la vie des citoyens, bien pour un régime qui, encore une fois, leur donne pas vraiment les moyens d'exprimer la frustration dans les urnes. Et que les acteurs technologiques, dont l'IA, qui est un multiplicateur de plein de choses, peut permettre ce développement et de faire en sorte que la Russie soit un pays plus riche, plus consommateur et donc augmenter la puissance générale du pays. Mais l'un des facteurs qui est vraiment cité en 2019 et qui a aussi entraîné d'autres stratégies, c'est évidemment le côté militaire. Donc vraiment, l'IA a été décrite comme un facteur de souveraineté technologique du point de vue militaire, mais aussi d'avoir des applications dans la cybersécurité, dans le système de reconnaissance et autres. Qui ont donné une stratégie d'ailleurs à part pour le ministère des Armées, mais c'est déjà évoqué en 2019 que des questions de modernisation et de garder la puissance de l'appareil industriel militaire russe étaient déjà données. Donc les spécificités finalement, donc je reviens, le constat est à peu près similaire à plein d'autres puissances. Ce qui est spécifique à la Russie, c'est la notion de rattrapage par rapport à l'existant et ce qui se passe évidemment aux États-Unis, qui ne sont pas cités mais ça transparaît, et le fait de garder une souveraineté technologique industrielle forte pour garder un complexe militaire puissant. Ça, déjà, ça transparaît dans l'initiative de 2019.
T'en as parlé rapidement et avant de creuser un peu plus les implications militaires, on va dire, de l'IA russe, j'aimerais bien que tu puisses nous dire au niveau stratégique et de la feuille de route de l'IA en Russie que l'État russe porte, qu'est-ce que ça a changé la guerre en Ukraine et depuis 2022, est-ce qu'il y a eu des modifications dans la stratégie, la pensée stratégique sur l'IA russe?
Très bonne question, parce que justement, si on voit depuis 2019 ce qui s'est passé donc en février 2022, c'est une vraie question de à quel point la guerre en Ukraine va modifier théoriquement la roadmap et ce qu'elle a montré. De facto, il y a une modernisation en fait, depuis 2022, on va dire des amendements, notamment en début de l'année 2024 dans cette fameuse doctrine de 2019, doctrine qui est de l'État fédéral, mais aussi d'autres aménagements directement faits par le ministère de la Défense russe. On regarde aussi ce qui s'est passé il y a quelques semaines, donc la notion en décembre, il y a eu la conclusion d'un sommet qui s'appelle The AI Journey, donc il y a un sommet annuel en Russie pour parler de l'IA, où le président Poutine s'est exprimé, où il y a des questions vraiment de coopération, de partenariat, évidemment, d'éviter les sanctions occidentales, mais encore une fois, un grand renforcement des capacités militaires. Et même quand on voit la modernisation de la stratégie, on va dire, civile, mais qui n'est pas la stratégie nationale, il y a plusieurs faits qui semble reconnu. Déjà, le manque de supercalculateurs. On se rend compte que c'est difficile d'accéder à des supercalculateurs à des capacités industrielles de pointe. Dans les 500 premiers supercalculateurs mondiaux, il y en a très peu qui sont russes. Très peu. Et ils sont pas dans le, sont sans doute pas dans le top 20, ni le top 30. Donc ça a été reconnu. Il y a une question d'accès au hardware. Évidemment, les sanctions ont beaucoup joué, énormément joué. Dans le fait où avoir aujourd'hui des chips qui viennent de Taïwan ou de Corée, très compliqué géopolitiquement, surtout le positionnement de la Russie par rapport à ce pays vis-à-vis de la Chine. Même une question d'Israël, il y a une grosse coopération entre des entreprises russes en Israël. Je prends un exemple, il y avait des voitures autonomes de Yandex, l'équivalent du Google russe, qui se baladaient il y a encore quelques années dans les rues d'Israël pour développer des systèmes et autres, avec une grosse collaboration avec beaucoup de startups israéliennes, une grande partie d'ailleurs de proximité culturelle avec la diaspora russe là-bas. Ça, c'est beaucoup plus compliqué depuis le 7 octobre. Pas vraiment février 22 qui a changé ça, mais 7 octobre 2023. Donc oui, la fermeture de la Russie et les 40 différents rangs de sanctions ont un effet évidemment sur le développement, montrent d'ailleurs en fait publiquement que la stratégie est en train d'être mise à jour pour pousser certains systèmes, et on reviendra peut-être plus particulièrement sur le fait du ministère des Armées, où il y a vraiment une emphase sur certains domaines clés qui sont utilisés aujourd'hui au combat. En revanche, il faut aussi être capable de voir derrière la ligne, et c'est beaucoup plus difficile de savoir ce qui se passe globalement, mais l'emphase du gouvernement fédéral sur la dépense militaire ne veut pas forcément dire que tout est axé sur l'IA. Un exemple, si aujourd'hui, la doctrine russe, on en parlera peut-être plus tard, est largement axée sur l'idée d'une robotisation de l'infanterie, du champ de bataille, de la mise à l'écart de l'homme, aujourd'hui on voit qu'il y a un manque de main-d'œuvre assez criant dans l'industrie, mais aussi sur le champ de bataille. On est d'ailleurs en train d'employer des soldats nord-coréens pour reprendre une partie du territoire russe à côté de Kursk, où il y a une question d'entraînement de l'infanterie qui a l'air sous-entraînée et parfois sous-équipée dans certains domaines. Et pourtant, des primes contractuelles qui sont gigantesques en cas de mort ou en cas d'engagement, avec des primes qui peuvent aller de 50 à 100 000 euros pour un engagement, ce qui parfois représente plus de 12 fois le salaire moyen russe dans certaines régions. Donc, le fait que le gouvernement fédéral dépense entre 7 et 10% du PIB russe dans l'effort de guerre, peut-être plus, hein, c'est au moins peut-être un tiers du budget fédéral aujourd'hui qui y passe, ne veut pas dire que cet argent va directement dans l'IA militaire. Aussi sur la production de hardware, sur la production d'obus, sur l'achat de composants qui sont parfois plus chers parce que ça part sur des manières détournées, plein d'autres. Donc oui, si 2022 a été un vrai tournant, je dirais, dans l'IA russe, avec des externalités sans doute positives sur la compréhension, le retour d'expérience de certains systèmes autonomes, ou alors dans le manque de systèmes autonomes et comment il faudrait le développer sur le champ de bataille, et d'un autre côté, ça tire énormément de ressources de l'État. Ça a aussi fait un autre problème qui est la fuite des cerveaux, la fuite de capitaux, et qui vont avoir un impact assez grand. Il y a beaucoup d'articles aujourd'hui qui parlent de dire que le boom de l'intelligence artificielle russe qui est vraiment apparu après cette doctrine, qui a vraiment été visible dans certains domaines entre 2019 et 2022, va être obéré par la guerre. Il y a une captation des ressources qui ne va pas toujours pour l'IA, ne va pas toujours pour. En plus, l'IA civile, qui, on le sait, c'est celle qui génère le plus d'externalités positives en termes de revenus économiques. Aujourd'hui, si on a un ingénieur en IA qui est resté en Russie, le gouvernement fédéral aimerait probablement qu'il travaille beaucoup plus sur des sujets militaires, je suppose, en ce moment, que sur des utilisations commerciales. Donc il y a une vraie question de savoir quels sont les impacts à long terme de cette guerre sur, un, les ressources humaines de la Russie, deux, ses capacités d'investissement dans les domaines clés, et trois, son accès ou sa capacité à produire du hardware qui reste quand même assez essentiel en termes d'indépendance et de souveraineté technologique.
J'aimerais bien qu'on s'arrête un instant sur la question de militaire et donc de la façon dont la Russie et les armées russes utilisent l'IA. Et est-ce que tu peux peut-être donner un ou deux exemples pour qu'on se rende bien compte de la façon dont c'est fait? Et par rapport à d'autres puissances, je pense aux États-Unis, à la Chine, aussi à l'Ukraine, d'une certaine façon, est-ce qu'il y a une avance, est-ce qu'il y a un retard ou est-ce que c'est équivalent finalement?
Alors, difficile, encore une fois, beaucoup plus facile pour un historien dans 30 ou 40 ans d'en parler, je pense. Et encore, il y a certains systèmes, typiquement, comment aujourd'hui juger de la pertinence et de l'efficacité des systèmes de drones chinois, développés par l'armée populaire de libération, face aux États-Unis, difficile de savoir qu'il n'y a pas de confrontation ouverte, Dieu nous en préserve. Donc, on peut voir ce qui se passe sur le champ de bataille, en tirer certaines observations, la comparaison est parfois difficile. Mais sur ces sujets, la Russie, déjà, faut savoir que c'est pas du tout nouveau, la réflexion des systèmes autonomes. Dans la réflexion, pour ceux qui ont vu d'anciens films, notamment Doctor Strangelove ou Doctor Follamour en français, c'est l'histoire d'une machine soviétique, The Doomsday Machine, qui réagit automatiquement à une frappe nucléaire et qui enclenche la fin du monde, parce qu'elle a été séparée du raisonnement humain. Et faut savoir qu'en fait, ce système existe plus ou moins. Il est plus ancien que le film et les idées, mais non, encore une fois, les idées théoriques précèdent souvent l'application. Mais par exemple, il y a quelque chose qui est présupposé actif dans le système de dissuasion russe, le système à périmètre. Un périmètre qui est une sorte de détection automatique si l'élite dirigeante et Moscou étaient rayées de la carte, à quel point certains systèmes nucléaires pourraient s'enclencher ou décider de s'enclencher de matière autonome. Je ne peux pas parler de Skynet ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est des réflexions stratégiques qui existent déjà au plus haut niveau et au niveau le plus sensible de l'État depuis longtemps. Maintenant, l'application sur un champ de bataille, c'est pas nouveau. Encore une fois, les drones existent depuis longtemps, la question des systèmes autonomes est différente, mais les premiers tests de ça dont nous avons connaissance datent de la Syrie, en fait, de l'intervention russe en Syrie il y a 10 ans, qui s'est terminée il y a quelques semaines de manière peu heureuse pour les Russes, mais il y a des premières utilisations de drones terrestres. De mémoire, c'était l'Ouran 9, une sorte de drone terrestre chenillé, où il y a une question de le contrôle à distance, mais avec certains degrés d'autonomie. Visiblement, ça n'a pas été très efficace pour pas le problème déjà d'IA embarquée qui à l'époque était absolument plus une question de publicité qu'autre chose, celle de télécommunication ou autre. Aujourd'hui, de ce qu'on observe en Ukraine, oui, effectivement, il y a une question d'autonomie des armes. Et même dans la doctrine russe, je dis, qui était un peu publique, qui a été redonnée cet été et remodélisée en 2024, il y a une grande priorité sur les drones et les robots militaires. Mais pas que. Drones et robots militaires, c'est une chose, il y en a deux autres priorités, cyberguerre, on va dire propagande, si on appelle ça influence. Les systèmes d'armement intelligents. Et évidemment, on le voit aujourd'hui avec beaucoup de choses que la Russie utilise sur le champ de bataille, notamment une copie des Shahed iraniens, il y a des questions de système autonome. On a plus ou moins de certitudes sur le fait que c'est difficile pour les Russes d'être totalement efficaces dans le domaine, qu'il y a une question de guerre électronique et autres. Mais les Russes, en tout cas, ont l'air de s'être améliorés sur certains domaines, notamment dans le domaine de la guerre électronique, du brouillage, pour contrer d'ailleurs les systèmes d'armes ukrainiens, qui eux-mêmes sont dans une course à l'autonomie des systèmes pour pouvoir notamment, ce que vous voyez parfois sur Twitter, les fameux drones FPV, First Person View, où on essaie de se rapprocher d'un tank, et vous verrez la fin de la vidéo qui a tendance à se brouiller et à perdre la scène. L'idée, c'est d'avoir un système embarqué suffisamment intelligent à bord, qui est une taille réduite, qui a une capacité de calcul et de reconnaissance, qui permet de tout ajuster, la frappe, on a perdu ce brouillage et autres. Très important, on sait que les Russes et les Ukrainiens travaillent là-dessus. Des grandes entreprises américaines sont connues, voire européennes. Hein. Helsinki a fait une annonce récemment sur le sujet d'avoir des drones autonomes en Ukraine. Et donc, il y a des armements russes qu'on voit sur le champ de bataille où on a une... du point de vue extérieur, encore une fois, moi je ne suis pas dans les secrets de l'auto de ce qu'ils sont utilisés en Ukraine, mais sur l'Orlan, sur les Lancet, où il y a des stratégies de guidage IA, de checkpoint, de calcul et voire même de reconnaissance de cible. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut à peu près observer parce que des fois, on arrive à tenir son matériel, avoir des vidéos qui montrent parfois un peu comment il fonctionne. Et plus méconnu, c'est les questions de traitement par des communications. À quel point les Russes modernisent ce qu'on appelle leur système de C4, C4ISR, donc système de commandement, de contrôle du champ de bataille, de transmission des données. Enfin, bref, contrôler, commander, exécuter des ordres. Difficile à savoir. Néanmoins, on pense qu'il y a quand même des efforts là-dessus. Sur le brouillage, c'est évident que la Russie, ça a toujours été un domaine assez fort pour eux et qu'il y a des vrais progrès là-dedans. Dans le système de défense antiaérienne, pour gérer la complexité des drones qui arrivent, on pense aussi, et certains articles scientifiques en parlent, qu'il y a une modernisation par IA de certains grands systèmes russes connus, bon, les S-500, successeur du S-400 et autres, mais plus sur le champ de bataille, une question aussi de réduction de ce qu'on appelle la kill chain. La kill chain, c'est, pour faire très grossièrement, le temps qui existe entre la détection d'un ennemi et le temps de ce qu'on appelle traiter cet ennemi, très globalement, le neutraliser, donc le détruire. Aujourd'hui, on voit quand même un temps d'amélioration assez net, ce qui existait au début de la guerre, pour le moment où les Russes repèrent une unité ukrainienne, et le temps que certains vecteurs, comme l'artillerie lourde, les mortiers ou les drones, voire des bombes guidées planantes, arrivent dessus. C'est une réduction de la kill chain. Est-ce qu'elle se lie à des systèmes d'IA? Peut-être, en tout cas pour analyser l'ensemble des données qui sont vues sur le champ de bataille par tous ces capteurs, pour réduire ce qu'on appelle l'opacité du champ de bataille, le fameux brouillard de guerre, il y a des systèmes d'IA qui sont développés. Et on a besoin de mathématiques pour traiter tout ça. Et aussi, quelque chose qui est difficile pour nous de percevoir, c'est le retour d'expérience des Russes sur le sujet, où ils font face à un adversaire qui est très innovant, qui est beaucoup plus rapide d'ailleurs, encore aujourd'hui, dans sa capacité d'innover et de trouver de nouveaux systèmes. Mais les Russes apprennent de ça. Et eux aussi apprennent, eux aussi font des contre-mesures rapides, et voire développent d'autres systèmes. Donc, au-delà de la pure IA, je ne serais pas capable de dire quel est tel système utilisé dans tel système d'armes russes. On est capable déjà de dire, c'est que le retour d'expérience que l'armée russe a sur l'utilisation de son IA et de celle de son adversaire en fait sans doute l'une des armées les plus expérimentées au monde sur le sujet aujourd'hui.
Tu l'as évoqué rapidement, tu parlais d'une utilisation dans le domaine de l'influence. Enfin, c'est un sujet sur lequel les Russes travaillent depuis longtemps. Alors, le terme, c'est maskirovka, tu me reprendras si je l'ai pas bien dit, et qui est une doctrine russe en fait de déception militaire et d'influence psychologique. Est-ce que tu pourrais expliciter un petit peu en donnant des exemples la façon dont les Russes utilisent l'IA comme un multiplicateur de force dans ce domaine précis? On en a parlé sur des sujets politiques où en 2016, il y avait des soupçons d'implication dans la campagne présidentielle américaine, mais peut-être aujourd'hui sur le champ de bataille ou en Europe, un peu sur cette guerre dans le cyberespace.
Alors, je serais prudent sur le terme de doctrine. On a tendance en Occident à voir certains noms russes, maskirovka, littéralement, c'est-à-dire camouflage, qui est en fait des opérations de déception stratégique militaire à l'origine, avec certains exemples très connus, hein, ce qui s'est passé à Stalingrad, ce qui s'est passé encore plus, avec beaucoup plus de réussite, dans l'opération d'agression à l'été 1944, finalement, ce qu'on appelle la déception, dans le terme. Difficile d'ailleurs de franciser le terme, hein. Déception, ça vient c'est un peu deception, du terme anglais. C'est des opérations militaires. Donc, il y a plusieurs éléments de doctrine russe sur le fait de comment se camoufler, faire semblant d'une opération d'influence ou autre. Je dirais qu'une différence avec la Russie, c'est qu'effectivement, cette question de jeu d'ombre et de jeu d'influence est beaucoup plus globale et s'approche d'une approche beaucoup plus intégrée, multimilieu, multichamp, on dirait en français, que les armées occidentales. Ça ne touche pas que l'armée, en fait, la maskirovka. Ça peut toucher certaines opérations. Je reviendrai encore sur un terme qui n'est pas une doctrine, mais ce qu'on parle de la fameuse doctrine Gerasimov, peut-être un article C'est un questionnement sur le fait que les Occidentaux puissent utiliser d'autres moyens que la guerre directe et pourquoi pas la Russie ni autre. Ça montre bien quand même qu'il y a une vraie réflexion russe, d'ailleurs très ancienne, hein, ça date vraiment au moins de l'époque soviétique, de dire voilà comment faire en sorte d'affaiblir un adversaire, finalement de gagner la guerre avant la guerre, comme dirait notre sénat général Burkhard, sans passer par des moyens purement matériels, donc les champs immatériels, la propagande, l'influence, le cyber, l'espace. Tout ça est quelque chose de beaucoup plus complexe que le simple fait de déception militaire. Et s'implique dans une stratégie plus globale qui intègre plein de différents acteurs en Russie, que ce soit des acteurs économiques, privés, hein. Prigojine, par exemple, était un des acteurs de stratégie d'influence russe avec ses fermes à troll, les médias russes d'État, une partie totalement de ça, plein d'autres acteurs, évidemment des agences de renseignement, différentes et parfois en concurrence, qui ont aussi un rôle là-dedans. L'exemple que je dirais pour dire qu'il y a quand même une emphase là-dessus sur le rôle de l'IA, c'est ce qui s'est passé très récemment en Roumanie, et dont je pense qu'on n'a pas encore très bien pris la mesure en France. C'est un événement historique, ce qui s'est passé en Roumanie. Je dis bien historique. C'est la première fois de l'histoire de l'Europe, et peut-être d'ailleurs de l'histoire du monde, une élection démocratique a été annulée pour des raisons d'influence étrangère par la Cour constitutionnelle roumaine, suite à des allégations et des documents de preuve fournis par les systèmes de renseignement roumains, les services de renseignement roumains, qui montrent qu'il y a une manipulation générale de l'électorat, notamment de l'électorat le plus jeune et le plus sensible par rapport à des implications, qui en plus sont des implications contrôlés par des acteurs chinois ou étrangers, avec des influenceurs que des pays, des commentaires qui ont été faits par des faux comptes, et aussi de l'utilisation d'ailleurs de l'IA, l'IA générative, pour faire des images, propager des discours, réutiliser, voire même utiliser des voix. Et on s'en doute, le rapport des services de renseignement disent que c'est sans doute à l'initiative d'un acteur qui a tout intérêt à séparer la Roumanie de l'Union Européenne et de l'OTAN. Donc, on peut se douter de qui c'est. On peut voir aussi qu'il y a pas du tout la première fois, vous en parlez en 2016, il y a des soupçons assez sérieux. On a eu aussi en France, hein, les gens oublient peut-être un peu les Macron Leaks, donc le vendredi soir, juste avant le premier tour de la présidentielle en 2017, et d'autres choses pendant les européennes, notamment la présence de certains candidats dont les vidéos ont été multipliées par facteur fois 100 sur TikTok. Donc il y a des choses qui sont du moins soupçonneuses, et effectivement, le rôle de l'IA là-dedans va être très important, mais pas que dans la capacité offensive. On se rend compte aussi que l'IA, dans l'analyse des données, toutes ces données, a aussi un rôle défensif assez utile, et je pense d'ailleurs, les services de renseignement roumains, peut-être d'ailleurs aidés par certains alliés, étaient capables de déceler assez finement, grâce à l'analyse de millions et de millions de données, d'où venaient les sources, quels étaient leurs points communs, quels étaient les moyens de relais, les différents moyens de faire exploser un message à tel moment, à telle date, à telle donnée. Donc c'est un combat, c'est toujours l'épée contre le bouclier. Mais ce qui est sûr, c'est que les Russes ont des stratégies, enfin, c'est une doctrine, mais ils ont des stratégies d'influence, par le biais de relais nationaux. D'ailleurs, en France, vous l'aurez noté, cette semaine, le Quai d'Orsay a montré, éprouvé qu'au moins plusieurs influenceurs français avaient été rémunérés au début de l'année 2022 pour propager des discours liés à la peur du nucléaire sur la promotion des missiles Satan et dire que ça faisait peur à la jeune public. Donc, est-ce qu'il y a une doctrine purement où je pourrais me recommander à la page 100? En tout cas, moi, j'en ai pas connaissance, elle est 200, elle devrait être secrète. Ce qui est sûr, c'est que oui, la Russie était dans un rôle qu'on décrit souvent de puissance de nuisance. Elle a du mal à être une puissance normative, en termes légaux, éthiques, économiques. Moi, elle peut largement faire mal avec son contre-discours et avec l'utilisation de ses données. D'ailleurs, n'oublions pas que c'est un régime qui, par essence même, est paranoïaque. C'est un régime autocratique dont la seule légitimité est de garder le pouvoir, mais pas de renouvellement des élites, mais pas le fait qu'on puisse exprimer une frustration par les urnes. Sa légitimité est assurée par d'autres biais, le nationalisme, la compensation sociale, le développement économique. Donc elle vit en permanence sur la peur qu'un jour le pion peut être retourné et se faire remplacer. Donc il y a aussi une vision russe de, pour éviter que ça arrive chez nous, faisons-le ailleurs, fragilisons les démocraties qui sont beaucoup plus perméables, où il y a des contraintes légales qui sont finalement beaucoup plus souples. Je rappelle que théoriquement, tous les sites occidentaux et les médias occidentaux sont interdits en Russie. Il y a des VPN, bien sûr, mais c'est interdit, alors qu'eux, en très longtemps, ont un accès avec des chaînes officielles chez nous, difficilement refusées et autres. Donc c'est vrai que le côté offensif russe dans les manières d'influence, dans le cyber, mais dans l'espace aussi, hein, qui est un domaine immatériel, on va dire, sont très agressifs parce qu'il y a une vision aussi du régime russe. Il faut occuper le terrain chez eux et les fragiliser chez eux. Et surtout parce que l'affrontement direct entre l'Alliance Atlantique et la Fédération de Russie n'est pas envisageable pour plein de raisons, notamment nucléaires.
Tu as abordé rapidement la question des acteurs. Tu parlais de Yandex, par exemple. Est-ce que tu pourrais décrire un petit peu qui sont les acteurs publics et privés de la chaîne de valeur de l'IA russe? et aussi sur finalement quel segment la Russie est souveraine et sur lesquels elle l'est pas et elle est dépendante de certains acteurs extérieurs comme la Chine ou d'autres.
Une vraie question sur la Chine. Déjà, pour parler de la structure de l'économie russe, une économie qui est très particulière. On peut penser qu'elle a adopté un certain libéralisme économique dans les années 90 et 2000, de facto quand on regarde aujourd'hui. La Russie, j'ai envie de dire, c'est très souvent l'apparence du droit, l'apparence de l'éthique. Si on lit la constitution russe, ça pourrait passer pour un pays démocratique. Mais en fait, il y a plein d'exceptions à la ligne et de petites lignes de caractère et de pratiques du pouvoir qui font que ça n'est pas. L'économie, c'est pareil. L'économie, il y a des grands acteurs économiques qu'on pourrait penser privés, mais en fait avec une forte participation de l'État fédéral, qui regarde finement qui est à la tête de quoi, on se rend compte qu'il y a une énorme captation de l'économie russe par une partie de l'élite, où il y a un certain clientélisme, et même, je vais aller plus loin, prédation sur certains domaines, et de récompenses, de positionnement très important de certaines personnes à certains postes clés. D'ailleurs, pour l'anecdote, Forbes, journal d'analyse économique assez réputé, considère que Vladimir Poutine est le dirigeant mondial le plus riche au monde, avec une fortune estimée à plusieurs centaines de milliards de dollars. Le dernier reportage d'Alexei Navalny, qui lui a valu finalement sa condamnation et sa mort dans un camp de prisonniers, c'était d'ailleurs pour montrer la villa que Poutine s'était fait construire au bord de la mer Noire pour une valeur de plus au moins de 2,2 milliards de dollars. Donc l'économie russe, quand on l'analyse, il y a ce qui est déclaré dans les chiffres et autres, il ne faut pas oublier qu'il y a une question de captation de l'appareil productif par d'autres. Et même si je la mets dans la définition, là je vais faire très simpliste et plein de gens beaucoup plus experts que moi, des criminologues, pourront dire que je vais pas assez loin, mais la répartition de la Russie en termes claniques se sépare souvent entre ce qu'on appelle les Siloviki, les hommes de force, qui viennent des agences de renseignement, du système militaire, des différentes agences de renseignement, qui sont parfois en compétition très ouverte envers eux, hein. L'assassinat de Prigojine l'a bien montré, et les Siviliki, qui sont des technocrates experts de leur domaine, très souvent formés à l'Ouest, mais au moins qui ont une vraie connaissance du capitalisme d'État et qui sont plus efficaces et qui vont produire la richesse qui elle-même va être captée et utilisée dans l'appareil fédéral, voire certains clans. Et c'est assez particulier quand on observe donc les grands acteurs de l'IA. Aujourd'hui, il y a vraiment des acteurs qui se démarquent comme Sberbank, donc qui est une banque russe, c'est la plus grande banque de Russie, qui ont l'ancien, on va dire, banque d'État soviétique, qui a fait plein de choses et qui est très actif, très très actif dans le domaine de l'IA, celle qui a créé un équivalent, on va dire, avec toutes les restrictions techniques qu'on peut dire, mais de ChatGPT, qui s'appelle Giga, je crois, GigaChat, en Russie, en 2023, très actif dans ce domaine. Il y a Yandex, j'ai dit, un moteur de recherche particulier. Et si on regarde les autres acteurs, comme l'équivalent d'Amazon et autres, quand on regarde qui est au pouvoir, il y a vraiment des rivalités assez fortes. Donc dire qu'il y a une séparation entre le secteur privé et public en Russie, ce serait vraiment peut-être aller trop loin. Effectivement, qu'il y a des initiatives privées qui sont liées à des intérêts commerciaux, des intérêts technologiques, hein, ce qui a donc permettre à faire que ces personnes utilisent les applications et qu'elles soient faciles pour transférer des fonds et des capitaux. In fine, il y a une vraie prise en main et une décision du pouvoir, après la mise au pas des oligarques au début des années 2000, de dire vous faites ce que l'État fédéral vous demande. Donc l'État fédéral est absolument important, c'est lui qui drive une grande partie, c'est lui qui est aussi responsable de la stratégie de l'IA russe. Et un autre acteur, par exemple, dont on peut parler, c'est Rosneft, qui est en fait un conglomérat d'une quinzaine d'entreprises très technologiques en Russie. En fait, quand on regarde qui est à la tête du conglomérat, surtout les entreprises qui la constituent, on se rend compte que c'est globalement à la main du complexe militaro-industriel russe. C'est plus des deux tiers des entreprises qui sont directement liées à l'effort militaire russe, que ce soit dans le domaine des munitions, de l'aéronautique, du spatial, de plein de choses. Donc ces acteurs-là sont assez importants. Il y a des grandes entreprises qui drivent le tout. Ces gigantesques mégastructures qui valent plusieurs dizaines de milliards, voire plus, de dollars. Et si on compare à d'autres pays, c'est vrai qu'il est difficile de voir une Silicon Valley russe. Il y a évidemment Moscou qui concentre grande partie des acteurs économiques et d'instituts de recherche aussi. Il y a pas mal de fondations Skourkovo qui est un centre d'innovation basé à Moscou et qui essaie de soutenir les startups. Mais il y a beaucoup moins de startups. Le chiffre que j'avais vu en 2020, c'était que le chiffre des startups en Russie, c'était. Je crois que c'était moins de 200 en 2020, start-up dédiée à l'IA, qu'on comparait à l'époque aux États-Unis, et c'était quasiment la préhistoire de l'IA, j'exagère, mais en 2020, il y en avait quasiment 7 000 et plus d'1 million en Chine. Donc ce genre de manque de petits acteurs innovants par une question de capitaux, de captation, de prédation de l'économie par des plus grands acteurs joue dans l'innovation, joue aussi dans les quêtes de talents, donc les gens ne veulent pas forcément travailler pour ces grandes entreprises. Et on va dire que c'est drivé par ces grandes entreprises financée par l'État ou très dépendante de l'État. Ça, c'est une vraie constitution spécifique russe, très différente des États-Unis, par exemple. Est-ce qu'en Chine, je ne connais pas assez mes connaissances chinoises pour dire que c'est pareil. Je dirais qu'il y a quand même un milieu des startups beaucoup plus vif à l'époque en Chine. À l'époque, hein, comparaison reste en 2022, et beaucoup plus vif en Chine, et que surtout, l'efficacité étant une vraie question, sachant qu'encore une fois, la guerre en Ukraine obère beaucoup de ressources, et de savoir en fait à quel point ces entreprises vont manquer de talent, notamment dans les recherches d'IA développées, enfin d'IA appliquées, pardon, de mathématiques ou autre. Ça, on le voit aujourd'hui, l'État fédéral considère officiellement, donc c'est-à-dire les chiffres véritables sont sans doute beaucoup plus graves que ça, une pénurie de 5 millions de travailleurs en Russie. Dans l'industrie de défense, ça touche quasiment 2 millions de personnes. Dans l'IT, c'est 600 000. 600 000 personnes en IT qui manquent.
Peut-être juste pour préciser ce point-là sur la chaîne de valeur et puis les dépendances, tu as parlé des supercalculateurs où les Russes possédaient pas, en possédaient très peu et pas forcément les meilleurs. Est-ce que tu pourrais revenir sur les segments de cette chaîne de valeur IA, je sais pas, les microprocesseurs, les calculateurs, où globalement ils ont une technologie qui fonctionne, où ils sont capables de faire de manière relativement autonome? Versus les segments où ils sont complètement dépendants d'acteurs extérieurs.
Oui, alors tout à fait. Sur la chaîne de valeur, encore une fois, le supercalculateur, ce n'est finalement que l'émanation d'une base technologique et de recherche très forte, avec une capacité de production hardware aussi. Depuis les sanctions, c'est beaucoup plus dur, effectivement, d'accéder à certains éléments techniques. Alors, encore une fois, qui sont globalement produits en Asie, mais pas que, beaucoup de puces américaines aussi. Donc, difficile de constituer des éléments pour quelque chose de vraiment souverain, on dirait. Après, il y a la question avec la Chine, qui est aussi un leader dans le domaine mondial de l'IA. Des supercalculateurs, ou potentiellement il y aurait des moyens de coopération, j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus, sur le fait que la Russie achètera des superordinateurs ou les fabriquera en coopération avec la République populaire de Chine. Mais ce qui manque donc à la Russie, c'est la capacité de production de microchips. Même nous en Europe, hein, on le voit avec le Chip Act, qui est un investissement de plusieurs, je crois plus de 32 milliards d'euros pour avoir des super usines chez nous. Et de manière générale, le marché aujourd'hui est très tourné à Taïwan, TSMC qui est un leader mondial aujourd'hui, et c'est très difficile pour la Russie d'avoir accès à ces chips derrière. Elle y arrive quand même. Elle y arrive quand même par le biais, encore une fois, de détournement de sanctions, par le fait que on voit des pays comme la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Tadjikistan, Kazakhstan, Turquie, qui deviennent en fait des énormes importateurs de ce genre de matériel et qui finalement n'ont pas l'air de l'utiliser beaucoup dans leur économie. Bon, il y a une question où finissent ces produits, on le sait très bien. Les Ukrainiens ont déjà montré d'ailleurs que certaines puces occidentales de dernière génération, Nvidia ou autres, étaient dans des drones russes qu'on avait retrouvés en bombardement. Donc ça, il y a une vraie dépendance russe, encore une fois, là-dedans, et ça suppose quand même des investissements massifs. Quand on parle d'investissement et de comparaison avec la Chine et les États-Unis, la stratégie de guerre russe parle d'investissement parfois jusqu'à 7 ou 8 milliards dans certains domaines, de soutien des startups jusqu'à 200 millions de roubles. Et finalement, ça reste ridicule. 200 millions de roubles aujourd'hui, c'est moins de 20 millions de dollars pour des startups. Quand on regarde aujourd'hui ce qui est levé aux États-Unis, le marché des venture capital, venture capital, c'est donc les fonds d'investissement là-dedans, rien à voir avec ce qui est aux États-Unis. Déjà en Europe et aux États-Unis, la comparaison est déjà très significative. Alors en Russie, pas du tout. Encore une fois, parce que très peu d'acteurs privés financiers indépendants, beaucoup de prédation et de captation des ressources. Et sur le domaine de la production particulière, il y a peu d'usines, voire pas d'usines, que nous connaissons en Russie, qui fabriquent pour l'instant ce genre de processeurs. Il y a aussi une question par rapport à la Chine. Est-ce que la Chine elle-même très investie dans le domaine par rapport à la vraie guerre froide économique depuis 2020 et les sanctions de 2020 contre Trump, qui développe ses propres systèmes, est-ce qu'elle est prête à les donner en métavis avis qu'il y a certains accords ou une discussion sérieuse sur le fait que les Chinois accèdent à certaines technologies nucléaires, enfin, nucléaires militaires russes très sensibles, peut-être dans le domaine des réacteurs, des sous-marins, de la balistique, que les Russes puissent échapper aux sanctions et développer leur secteur dans le domaine. Mais aujourd'hui, la chaîne de valeur de l'IA russe n'est pas complète, c'est évident. Elle manque d'un sous-investissement chronique dans certains domaines. Et cette dépendance risque de s'accroître, je pense, encore une fois, avec cette question de la priorité qui est donnée sur la guerre en Ukraine et son financement. On voit aujourd'hui les réserves d'argent d'État fédéral sont quand même beaucoup plus basses qu'elles n'étaient en 2020 et qu'à un moment, le cash va manquer.
Tu en as parlé du fait que ben, la Russie faisait face à quand même des sanctions très importantes depuis le début de la guerre en Ukraine et que ça a affecté son accès aux technologies qui sont nécessaires dans les développements de l'IA. Est-ce que cet accès aux technologies, il a impacté d'une manière visible la stratégie d'IA du pays? Pas forcément la façon dont il contourne les sanctions au quotidien, mais directement la stratégie dont on pense les développements de l'IA aujourd'hui et demain au niveau de l'État russe et sur les solutions alternatives. Tu en as parlé de peut-être faire de l'échange avec la Chine. Il y a des choses qui se passent avec la Corée du Nord où il y a des échanges plus ou moins officiels. On peut imaginer qu'ils aient accès à des usines qui sont très présentes en Corée du Nord. Enfin, voilà. Comment ça impacte cette vision un peu plus macro
Sur le domaine des échanges avec la Corée du Nord, je vais être très clair, je pense que la Russie n'a pas grand-chose à retirer technologiquement de la Corée du Nord. Elle a retiré des obus et des hommes, ce qui est déjà deux choses qui lui manquent beaucoup en Ukraine. C'est plutôt la Corée qui risque de développer beaucoup son programme nucléaire et balistique. C'est plutôt dans cet échange-là avec la Corée qui sont pas du tout au niveau technologique qu'on pourrait imaginer avec la Chine, bien évidemment. Pour la stratégie, j'en ai un petit peu parlé au début, de dire que voilà, il y avait cette prise en compte que l'argent fédéral n'avait pas forcément été suffisant, mais il y a les questions de est-ce qu'on peut investir plus, de comment faire en sorte d'avoir des supercalculateurs, et la stratégie en soi est très tournée sur les domaines militaires, beaucoup plus qu'avant. Beaucoup plus qu'avant. Ce qui, encore une fois, dans le domaine, par exemple, de la mise de données ou autre, peut être problématique. Après, dire que la Russie est en retard dans tous les domaines, c'est faux. Je dirais même que sur les domaines qui sont, par exemple, la reconnaissance faciale, la Russie a un avantage gigantesque comparé des pays européens, c'est que même si encore une fois, c'est un pays qui a l'apparence du droit, l'apparence de protection des données, qui a l'idée d'une charte éthique au début des années 2020, 2021, je crois, pour le respect de la vie privée et autres, ou contre la discrimination. Aujourd'hui, on peut prendre le métro à Moscou juste avec son visage. Et la question de la RGPD est très différente, même si il y a une loi de 2006 qui d'ailleurs n'est pas si éloignée que ça de la RGPD, mais quand même, on sait très bien que l'État fédéral russe ne se gênera pas, les services d'enseignement ne se gênent pas pour prendre les données des citoyens. C'est un peu le cas d'ailleurs de ce qu'on peut voir dans d'autres pays non démocratiques qui utilisent l'IA. On a accès à des données beaucoup plus riches que d'autres entreprises en Europe, en Chine, aux Émirats par exemple. Donc je dirais que même sur certains domaines très particuliers, des entreprises russes qui n'ont pas du tout à souffrir de la comparaison aujourd'hui technologique, c'est beaucoup plus dans 5 ou 10 ans que s'il y a un manque d'ingénieurs, un manque d'argent dans certains domaines, que la consommation russe s'écroule parce que l'économie est phagocytée aujourd'hui. Et tout en plein régime à cause de l'industrie de l'armement et de l'effort de guerre, ces problèmes seront beaucoup plus visibles par la suite. Mais encore une fois, dans certains domaines comme le e-commerce, je pense que des entreprises russes n'ont rien à envier à l'entreprise européenne. Et même d'ailleurs, il y a des champions de l'IT russe. C'est pas en Europe. En Europe, nous n'avons pas d'Amazon européen, nous n'avons pas de Google européen. Le fait que la Russie soit un peu fermée, d'autant plus depuis les sanctions, mais même avant, et essayer de développer des solutions souveraines, voire de la concurrence, sans d'ailleurs aucune question de droit ou de propriété, hein. L'équivalent du Facebook russe a été une copie totale de Facebook, hein. Contact, est très difficile de porter plainte en Russie face à l'État fédéral russe pour ça. Donc je dirais pas qu'ils sont en retard sur tout, je dirais même qu'ils sont champions dans certains domaines, et ne pas sous-estimer encore une fois le retour d'expérience qu'ils vont avoir, qu'ils ont déjà, de l'utilisation de certains systèmes sur le champ de bataille. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Quelles sont les limitations techniques? Et où est-ce qu'on peut trouver une solution? Ça, je pense que comparé à beaucoup d'armées occidentales, ils ont un avantage dessus.
Tu en as parlé tout à l'heure de la question du manque d'effectifs, alors globalement dans l'économie russe, mais plus spécifiquement, je crois que tu parlais de 600 000 personnes dans le domaine de numérique technologique. On a vu depuis le début de la guerre en Ukraine une sorte de fuite de cerveau, de talents qui quittaient le pays. Comment cette fuite et ce manque chronique de talents, il impacte le secteur technologique dans son ensemble, pas que le domaine de l'IA, mais le secteur technologique, et comment la Russie fait pour pallier un petit peu à ce manque, et surtout, je veux bien croiser ça avec le fait que en Russie, globalement, il y a un problème de dénatalité, ou enfin la question démographique est un vrai sujet qui est pris en compte au plus haut niveau de l'État, parce qu'ils anticipent bien une baisse de la démographie. Comment on intègre ça au niveau de l'État pour pallier à ces problématiques de ressources humaines qui peuvent obérer à moyen et long terme les capacités technologiques du pays en fait.
C'est pour moi la question la plus importante aujourd'hui de la survie de l'économie russe et de sa place dans le concert des nations. La démographie, c'est évidemment important pour plein de choses. On le sait bien en France, aujourd'hui on voit les problèmes sociétaux et surtout de financement de notre État-providence par le manque de naissances. Mais en Russie, c'est beaucoup plus criant. Des classes d'âge qui ont été totalement vaporisées par l'écroulement de l'Union soviétique, même chose en Ukraine d'ailleurs, la pyramide des âges est très déséquilibrée. Et au-delà de la fuite des cerveaux, faut pas oublier non plus que les gens qui meurent en Ukraine, et on parle peut-être au moins de plusieurs centaines de milliers de personnes, le côté russe, sont aussi des jeunes. Pas que, mais quand même. Et la fuite des cerveaux, on estime quand même que c'est minimum 800 000 personnes. 800 000 qui ont eu les moyens de prendre un avion, les moyens de demander un visa, qui sont parmi les plus éduqués, et aussi ceux qui rapportaient le plus d'argent. Attention toutefois, ça ne veut pas dire que ces 800 000 personnes dehors travaillent toutes dans le domaine de l'IA ou de l'IT, mais néanmoins une part non négligeable, et ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas non plus pour la Russie. Il y avait un ouvrage excellent de Nicolas Quesnel, d'ailleurs, sur cette génération russe qui était plutôt apolitique, comme ils se disent, qui n'aime pas trop finalement l'état dans lequel vient la Russie, qui adore travailler sans visa en Thaïlande ou à Bali, puis changer parce qu'ils peuvent aller en Turquie et autres sans trop de difficultés techniques, mais qui travaillent pour des agences de propagande ou des entreprises d'État russes à distance. Donc voilà, il faut un peu nuancer ça. Néanmoins, le problème démographique est absolument criant. Pour vous donner un chiffre, je crois qu'en 2022, 2021 du coup, c'est ces statistiques d'année 2022, la Russie a perdu plus d'un million d'habitants. Plus d'un million d'habitants. Parce qu'il y a un vrai problème des retraites en Russie. Hein. L'âge de la retraite pour les hommes est au-delà de l'espérance de vie. C'est quelque chose d'assez malheureusement tragique. Et puis, problème de naissance. Et encore une fois, cette guerre qui n'améliore pas les choses. Donc oui, ça c'est un vrai problème structurel. Toutes les politiques natalistes en Russie ont plus ou moins été des échecs. On ne peut pas essayer de retourner les choses. On n'a pas qu'un démographie ou de la désincitation financière. C'est la confiance des gens dans l'avenir. Ça, qui aujourd'hui en Europe, je pense, nous fait défaut. Il y a aussi les conditions sociétales d'élever un enfant, de pouvoir lui donner un avenir serein, de pouvoir payer son éducation et autres. Et tous ces domaines qui ont été plus ou moins sous-investis, sous-traités par les élites russes au cours des 20 dernières années, parce que d'autres priorités, la puissance géopolitique, la course aux armements, la présence à l'international, le fait d'avoir des grands systèmes d'importation, des grands éloducs, pas forcément aidé les hôpitaux, les crèches ou d'autres régions. Il y a une vraie différence entre les territoires isolés en Russie et Moscou. Moscou qui génère au moins 60 à 70% du PIB russe, et le reste de la Russie, qui est très pauvre, il faut le dire, en termes de revenus par habitant, et où les conditions économiques sont difficiles. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentable pour une famille ou quelqu'un qui veut aider sa famille de s'engager dans l'armée russe et d'aller mourir en Ukraine que de faire sa carrière dans une région isolée. Ce qu'on appelle l'économie de la mort, où il y a des très très bons sociologues, je tournerai vers travaux d'Anatoli Lebedev notamment, qui parle de ça. Il y a une vraie économie de la mort en Russie, ce qui n'est pas en plus pour faciliter les problèmes démographiques actuels. Donc ça, c'est une vraie question. La question, par exemple, se pose aussi en Chine. La Chine forme plus d'1,5 million, voire plus d'ingénieurs par an, et elle a une rétention des talents. Elle est capable de dire aujourd'hui, certains talents ne vont plus dans les universités américaines et je les empêche de partir. En Russie, plus compliqué. Ça reste un pays qui a l'apparence du droit, qui, pour certaines raisons sociales, laisse parfois passer la cocotte minute. On le voit d'ailleurs dans la déclaration de Vladimir Poutine, une déclaration très très forte à la fin 2022 pour dire que ceux qui étaient partis de Russie, bon débarras, on n'avait pas envie d'eux, c'était pas utile. Et en fait, certains discours, notamment son intervention il n'y a pas très longtemps à la télé russe, disaient, bon, voilà, on a un pays accueillant, vous voyez que ça marche bien chez nous, vous voyez que l'économie survit, qu'il n'y a pas de souci, qu'on est un pays accueillant et qu'on est capable de créer les conditions. Donc oui, c'est un sujet primordial. Est-ce que je suis capable de vous dire aujourd'hui, je ne suis pas démographe, je ne suis pas non plus économiste, de vous dire quelles vont être les conséquences à très long terme. Elles vont être grandes. J'ai du mal à croire que la Russie va rattraper ce problème démographique sous peu, comme nous d'ailleurs. Mais les conséquences de la guerre et comment elle sera résolue, quoi qu'il arrive, ce sera présenté comme une victoire, mais tout le monde saura que c'est pas vraiment une si grande victoire que ça. Ils vont vraiment impacter les capacités russes. Même si, n'oublions pas que la Russie forme des ingénieurs de très grande qualité, a une tradition en mathématiques, en physique excellente, que beaucoup de gens russes gagnent encore aujourd'hui des concours spécifiques à l'IA d'ailleurs, qui se donnent aujourd'hui des compétitions, une vraie base éducative de très grande qualité, avec des instituts qui sont vraiment autrefois très réputés, mais qui ont tendance un peu à se scléroser. Dans le classement des universités en mathématiques, la Russie recule assez régulièrement. Et en gros, tout ce qui est date du système soviétique et qui était très efficace a fortement souffert, bien sûr, de la chute de l'Union soviétique, mais aussi des choix politiques récents. Et la guerre en Ukraine en étant le plus grand enfant.
J'avais envie de te poser une question un petit peu prospective sur le développement de l'IA en Russie. Regarde un petit peu de tes connaissances et de ce que tu observes aujourd'hui. Comment toi t'envisages les développements de l'IA en Russie dans les 5-10 prochaines années? Et est-ce que tu penses que la Russie a les moyens de devenir une puissance majeure de l'IA? Alors peut-être pas de dominer le monde, comme disait Vladimir Poutine, mais au moins d'avoir une vraie place dans les puissances qui comptent dans le domaine de l'IA.
Je pense qu'elle fera partie des puissances qui comptent dans le domaine de l'IA, notamment de par sa paranoïa et sa priorité stratégique sur les questions militaires. Oui, elle continuera d'investir des sommes non négligeables dans les systèmes militaires autonomes. Elle en aura besoin, on parle aussi des problèmes démographiques, mais à un moment, la robotisation de l'infanterie est aussi due à un manque démographique. Hein. Ce sera la même chose chez nous d'ailleurs. Et il y a des programmes russes qu'on peut suivre qui se reposent beaucoup sur les systèmes d'IA. On pourrait parler du système nucléaire qu'on appelle le Poséidon, qui est censé être une torpille autonome, une sorte de sous-marin torpille autonome. Alors ça, très compliqué en termes de dissuasion nucléaire, est-ce qu'ils vont vraiment le faire à l'implémenter dans les océans compliqués? Mais on voit que beaucoup de systèmes russes dans le domaine militaire, qui est le domaine qui m'intéresse, oui, la Russie continuera à être une puissance qui sera importante. Encore une fois, je me répète, par le rétexte qu'elle a en Ukraine, parce qu'elle est capable de diffuser en Chine ou autre, elle aura un poids dans certains systèmes d'IA. Dans la reconnaissance faciale, elle aura du mal à l'exporter, mais elle aura ses propres capacités. Dans le domaine de l'influence, du cyber, de l'IA générative, des opérations de lutte, d'influence, enfin, d'attaque cyber ou de défense cyber, ça restera une puissance importante. Maintenant, si on regarde les chiffres et les investissements, comparé à la Chine de ce cas, nous ne parlons pas du même monde. Nous parlons pas du même monde. Aujourd'hui, les GAFAM dépensent par mois des dizaines de milliards de dollars dans leur modèle de langage. Et encore, on parle même dans le modèle de langage que les gens connaissent, mais dont les utilités technologiques sont déjà limitées, plus pour le développement commercial. Et si on parle de systèmes d'IA beaucoup plus poussés de recherche fondamentale, le nombre de brevets déposés par les États-Unis ou la Chine, comparé à la Russie, c'est totalement négligeable. Déjà, l'Europe, ça nous fait peur, mais alors la Russie, c'est totalement négligeable. Il y a aussi un problème d'accès à la recherche collaborative. Il ne faut pas oublier que beaucoup de brevets, de grands développements cruciaux dans l'histoire de l'espèce humaine ont été faits par des universités qui se parlaient, avec des chercheurs qui se parlaient. Compliqué avec les sanctions, compliqué avec l'image de l'industrie russe et de du système éducatif russe par rapport à l'Occident, qui reste quand même aujourd'hui en avance. Quand je dis en avance, l'Occident, c'est plus les États-Unis. Hein. Le patron de Palantir disait il y a quelques semaines dans une interview, la révolution d'IA, c'est avant tout une révolution américaine. Pas forcément tort. N'oublions pas que les révolutions industrielles ont aussi été très marquées par les pays d'adoption. La première révolution industrielle a été britannique, la deuxième, grande partie tournée sur la chimie automobile, a été vraiment partie allemande. La troisième révolution industrielle, on pourrait dire l'IT et autres, ça a quand même été drivé par les États-Unis. La quatrième, qui est aujourd'hui dans certains systèmes nouveaux, le quantique, la fabrication additive et l'IA, est quand même très tournée par les États-Unis, avec la Chine en grand compétiteur. Mais les chiffres n'ont rien à voir. Quand je parlais de certains chiffres, il y avait une estimation, je crois, l'été dernier, donnée par le ministère du Développement économique en Russie, qui disait que le marché de l'IA en 2023 était d'à peu près 7 milliards de dollars. Ce qui est grand. Ça reste très très difficilement comparable à ce qui se passe ne serait-ce qu'en Californie, ou à Shenzhen, ou à Shanghai. Donc la Russie, oui, sur certains systèmes, à mon avis, restera vraiment en pointe pour des questions de priorité stratégique et de vision de ce que devrait être la géopolitique. On revient sur ce que Poutine a fait. Mais en termes économiques, elle aura beaucoup de mal à exporter certains de ses systèmes. Est-ce que Yandex va être acheté en Europe? Certainement pas. Et en termes de puissance normative, d'être capable de définir des normes, qu'elles soient éthiques, légal ou en termes de propriété des algorithmes, comment ça va faire. C'est difficile aujourd'hui de croire les Russes sur le côté éthique de la guerre, que l'homme doit être dans la boucle et qu'il faut respecter l'humain dans certains domaines. Donc en tant que puissance normative, très compliqué. Puissance industrielle, très compliquée par rapport à l'accès à certains hardware. Mais, certaines capacités, certaines priorités effectivement russes et certaines données qui restent clés dans le domaine militaire font que la Russie restera une puissance qui compte en IA et qui d'ailleurs joue dans la même cour que certains pays européens, voire plus, en termes d'investissement.
On arrive à la fin de l'entretien. J'avais envie de te poser une question un petit peu plus macro, pas forcément que en lien avec l'IA, mais on a entendu parler il y a quelques jours, je crois, de la signature d'un contrat entre la Russie et l'Inde sur la fourniture de gaz ou de pétrole, j'ai un doute, mais un contrat énorme. Et en tout cas, le narratif ou le récit est porté par Vladimir Poutine et la Russie. Pas que depuis le début de la guerre en Ukraine, mais encore plus depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est une sorte de multipolarité du monde, de créer un monde où il n'y a plus d'hégémonie, où il n'y a plus d'hégémonie seulement américaine, mais où chacun pourrait trouver sa place. Et contrairement à ce qu'on peut voir en Occident, où en tout cas on parle de l'isolement russe, la Russie raconte une autre histoire où en fait il y a des connexions avec la Chine, avec l'Inde, avec ce qu'on appelle le Sud global. Comment toi tu vois, quel est le regard que toi tu portes et un peu ton sentiment, ton intuition sur les développements de la Russie au sens large? Est-ce qu'on va vraiment vers un monde plus multipolaire où, on aurait une sorte de retour à des blocs, ou est-ce qu'on va rester dans un système qui est celui qu'on connaît aujourd'hui? Enfin voilà, quel est ton regard là-dessus?
Alors, question qui n'est pas directement liée à l'IA et la question à 1 million de dollars. Moi, évidemment, en tant que conseiller politique pour le ministère, j'ai pas des convictions, j'ai des opinions là-dessus. Déjà, la Russie, effectivement, n'est pas totalement isolée. Le narratif russe est très puissant. Parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus facile de construire un narratif sur l'opposition à quelque chose que l'adhésion commune à des valeurs. Vraiment. Et quand aujourd'hui, la Russie se présente comme le héros d'anticolonialisme en Afrique, ça porte. Parce qu'effectivement, il y a des gestions d'histoire qui ont été compliquées avec des puissances européennes, la France en premier lieu. Et c'est vrai qu'historiquement, l'Union soviétique a aidé à libérer, a aidé certains mouvements indépendantistes. Je rappelle que on a quand même sur le drapeau du Mozambique une Kalachnikov. Je pense que c'est quand même assez significatif du rôle de Moscou dans certains mouvements indépendantistes. C'est évidemment totalement oublié son côté. La Russie est une puissance colonisatrice. Hein. Le fait qu'il y ait 25% de personnes aujourd'hui en Estonie qui parlent le russe de manière native, c'est le fruit de la colonie, bien sûr. Ne serait-ce qu'en Sibérie, les villes fondées le long du Transsibérien sont en fait des colonies pénitentiaires et des zones de peuplement blanc dans des zones qui n'étaient pas. Fin de la parenthèse. Néanmoins, le narratif porte. Et d'autres pays ont aussi intérêt à ce que l'Occident perde un peu le poids hégémonique qu'il a eu depuis, on va dire, grandes découvertes et les grandes navigations au 15e, 16e siècle, et que l'Occident retrouve un poids plus limité. Ne serait-ce que démographiquement, l'Occident est moins important qu'il ne l'était. L'Europe était beaucoup plus peuplée que l'Afrique il y a 100 ans. C'est évidemment plus le cas. Des grandes puissances civilisationnelles, j'ai envie de dire, comme la Chine ou l'Inde, retrouvent un peu finalement la place qu'elles avaient avant la révolution industrielle et la mise au pas du monde par les Occidentaux. Donc ça, oui, c'est un discours qui porte. C'est un discours qui est plein de contradictions, bien sûr, comme toujours chez les Russes. Difficile de se prétendre le héros de certains pays anti-occidentaux quand la Syrie s'écroule et qu'ils le lâchent au bout de quelques jours, finalement. Avoir 10 ans d'investissement militaire, ce qui peut poser des questions en Afrique. Les BRICS, c'est un sujet très complexe, parce que dans les BRICS, il y a une inégalité absolument totale entre la Chine et le reste. L'Afrique du Sud, par exemple, quel est vraiment le poids de son économie, de son poids politique mondiale. Le Brésil qui se veut rentrer au Conseil de sécurité de l'ONU, quels sont ses principes en termes d'obligation de respect du droit international quand on voit qu'il a du mal à s'opposer à l'invasion d'Ukraine. Et évidemment, l'Inde et la Chine, qui sont en compétition stratégique assez exacerbée. Tu parlais de l'Inde. L'Inde a des relations historiques avec Moscou. Plein de raisons, encore une fois, de troisième voie à l'époque. Moscou était assez proche de ces pays et l'Inde essaie d'avoir une petite reprise équilibrée. Il y a un vrai besoin en Russie, encore une fois, de main-d'œuvre en Haïti, et l'Inde peut être une serre-saute. Et du côté de New Delhi, évidemment, les armements russes sont toujours très importants et autres. Mais la grande différence entre les Occidentaux et les autres, et ça, pour avoir travaillé longtemps, je peux avoir une vision plus particulière dessus, c'est que nous sommes alliés. On a des défauts, on a des compétitions, on a des intérêts qui parfois sont divers, nous restons de facto alliés. Dire que la Chine et la Russie sont alliés, c'est faux. D'ailleurs, ils évitent systématiquement ce terme, parlent de partenariat stratégique. Aujourd'hui, est-ce que les BRICS sont alliés? Est-ce que l'opération de coopération de Shanghai est une alliance? Bien sûr que non. Et ils s'embêtent parfois. Je rappelle que, à mon avis, si Vladimir Poutine s'est déplacé mi-février 2022 à Pékin, c'était pas que pour voir les Jeux Olympiques et qu'il y avait une question de prévenir les Chinois de ce qui allait arriver en Ukraine. Je pense que les Chinois ont été très surpris, voire déçus, que l'opération russe ne se déroule pas en 3 jours comme ce qui avait été potentiellement annoncé. Je pense qu'aujourd'hui, les menaces nucléaires russes assez permanente dans l'opinion publique occidentale et mondiale, ne sont pas pour plaire à tout le monde du côté des BRICS, encore moins du côté de la Chine. Parce que si, par malheur, une arme nucléaire tactique devait être utilisée par cause de désespoir en Russie, par Russie en Ukraine, par la Russie, les conséquences géopolitiques seraient tellement explosives derrière, avec sans doute la Corée du Sud, le Japon, qui voudrait avoir l'arme atomique, évidemment l'Iran, les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, Taïwan, potentiellement, que ça ne plairait pas à tout le monde. Donc il y a quand même des grandes différences d'opinion entre ces pays, et comme des rivalités dans certains domaines. On parle de vassalisation, en fait. Est-ce que dire que la Russie est capable de prendre la tête d'une alliance mondiale anti-Occident, c'est très compliqué vu ses ressources. Et de facto, elle devient un vassal économique de la Chine. Et ce sera de plus en plus le cas. Et vassalisation veut dire que l'autonomie et la souveraineté vont être compliquées. Je prends un exemple historique russe qui me plaît beaucoup. Les Russes ont comme héros plusieurs héros de l'indépendance, notamment Alexandre Nevsky. Cette bataille du lac Tannenberg, c'est pas Tannenberg, mais d'un lac dans les pays baltes, où Alexandre Nevsky, prince de Veliki Novgorod, affronte les Juifs teutoniques et empêche finalement l'occidentalisation, la latinisation, la catholisation de la Russie, qui est vu comme un vrai héros. N'oublions pas qu'Alexandre Nevsky, en fait, quelques mois après, s'est mis à genoux devant les grands khans mongols et chaque année versait un tribut pour que la ville de Veliké Novgorod ne soit pas rasée par les hordes mongoles. Voilà ce que c'est, la vassalisation. Donc dire que la Russie va être une grande puissance indépendance, dépendant des Occidentaux, enfin indépendant des Occidentaux peut-être, dire qu'elle sera totalement capable d'imposer son discours à elle-même d'être indépendante, de moins en moins, je pense, pour les raisons démographiques que nous avons évoquées, économiques, et même de déperdition de son influence dans certaines régions du monde où elle a pourtant beaucoup investi. Mais non seulement multipolaire, encore une fois, est-ce anormal que des grands pays comme l'Inde, l'Indonésie, l'Égypte ou la Chine prennent la place que leur population leur permet d'avoir et leur économie comme elle devrait être développée? C'est un monde qui est différent. Nous tournons une sphère géopolitique qui était largement dominée par l'Occident, surtout après la fin de la guerre froide et, disons-le, la victoire de l'Occident dans cette compétition idéologique et économique. Dieu merci, pas militaire, avec bien que des conflits. Donc on est dans une nouvelle phase. L'IA va jouer un rôle dedans. Pour en venir vraiment sur le début de l'interview et le maître du monde, je ne sais pas si il suffira de l'IA pour être le maître du monde, mais ce qui est évident, c'est que les implications de l'IA qu'on commence à peine à voir, on commence à peine à voir en termes de production de contenu, d'analyse de données, d'amélioration énergétique, de prédiction de certaines données climatiques, par exemple, ou autres, font que ce deviendra un indispensable des économies modernes, de la planification militaire, là, évidemment, je prêche pour ma paroisse dans mon rôle actuel, et ce sera un indispensable de la puissance. Est-ce que ce sera l'indispensable avec un seul singulier, je ne sais pas, mais ça deviendra l'un des piliers de la puissance, de la résilience et sans doute de la souveraineté des États modernes. Et ça créera d'autres questions sociétales, de place de l'économie, que va devenir la classe moyenne par rapport à une perte d'emploi, que va devenir à la population mondiale face à la surpopulation et le fric de données et les productions économiques que cela peut gérer n'est pas partagé. Des vrais sujets sociétaux largement liés à l'IA purement technologique. C'est là où Vladimir Poutine, pour le coup, a raison, c'est que l'IA va être très importante. Ça, c'est évident.
Merci beaucoup Arnaud d'avoir répondu à mes questions. J'espère à bientôt alors.
À bientôt Clément et merci encore de m'avoir reçu.
L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.